Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
J'ai presque envie de dire sur ce live Twitch, deux touchdowns actu consacrés au ranking par position, les projections top 20 en vue de la prochaine draft qui se tiendra donc dans 9 jours maintenant du côté de Las Vegas. Ça avance, vous l'avez peut-être constaté notamment par le biais des pastilles hein, que vous retrouvez chaque jour sur le site de TDA. On parle déjà des équipes qualifiées notamment en tour de division en playoff, donc c'est dire que l'échéance approche à grands pas, puisqu'on se rapproche notamment des demi-finalistes et bien entendu des participants au Super Bowl. Je salue les premières personnes qui sont présentes sur le chat. Bien entendu, après avoir salué mon camarade technicien Camille, qui me fait de nouveau la gentillesse d'être avec moi. Salut Camille.
Salut à tous.
Et aujourd'hui, on va donc parler attaque. J'en profite pour saluer donc Joe Gactou, qui est de nouveau des nôtres. Zappa, donc Jean-Michel, que je salue bien bas. Nolive 9 également, qui est là. Baptiste également, habituel, que je salue. Kenyon Martin 59. Voilà, on avait Jamal Adam 003 hier. On a Kenyon Martin 59. Donc, voilà, que de célébrités sur ce chat au cours de ces soirées. Très, très beau joueur, hein, Kenyon Martin, pour ceux qui s'en rappellent. Finaliste notamment avec les Nets d'une finale NBA, donc ça c'est pour le côté un peu vieillot du soir, hein, les vieux souvenirs qui reviennent. Donc je le disais, on va parler ce soir de l'attaque. Je vais pas rappeler hein, pour une large majorité qui était là hier, encore que je vais juste peut-être résumer très grossièrement. Donc on s'intéresse au top 20, aux 20 joueurs de chaque position susceptibles d'être draftés les premiers. Donc, c'est vraiment purement une projection sur lesquelles on va s'avancer sur les positions de quarterback, de running back, de receveur, de tight end, de tackle et de lineman intérieur. Le but du jeu, c'est pas de dire qui est plus fort, qui est moins fort, qui aura la meilleure carrière, la moins bonne. C'est vraiment de rester sur un focus purement draft et savoir qui a le plus de chances de plaire aux franchises, les raisons éventuelles et du coup à quel tour éventuellement on peut s'attendre à les voir sélectionnés. Il y aura éventuellement quelques points de désaccord, notamment sur des positions. Ça avait été le cas également, hier, sur les linemen défensifs, sur les O-line. Je vous cache pas, il y aura sans doute quelques points de désaccord sur qui peut jouer sur l'extérieur, qui peut jouer sur l'intérieur. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est d'avancer des arguments ou en tout cas de donner une petite clé de lecture. Et après, de toute façon, il n'y a pas de vérité absolue. On voit des joueurs qui sont plus ou moins attendus sur une position et qui sont testés sur une autre une fois arrivés en NFL. Donc voilà, ce sera avant tout pour donner un élément de réponse par rapport à ça. Je salue également Segrio qui était là hier et qui est de nouveau des nôtres ce soir. Urizen 81 également qui est là, Njito 72. Voilà, on va pouvoir lancer les hostilités. On va essayer de prendre un petit peu d'avance parce que mine de rien, hier, on s'est un peu débarrassé rapidement hein, des special teamers. Si je peux parler ainsi, mais c'est vrai que ça allait quand même assez vite. On va commencer cette deuxième soirée des rankings positions consacrées à l'attaque avec notamment les tight ends, groupe pas forcément très glamour sur le papier, mais qui en tout cas va peut-être, on va dire, receler de petites pépites dans les tours intermédiaires. Et du coup, il faudra peut-être plus s'attendre à faire des affaires aux alentours du troisième, quatrième tour. Je vais te laisser nous dévoiler, Camille, le top 5. Notamment en tout cas les 5 premiers de ce top 20 avec des noms que vous connaissez pour la plupart, Trey McBride qu'on ne présente plus forcément mais qui a été vraiment la boussole offensive de Colorado State notamment ces 2 dernières années, vraiment une machine, enfin en tout cas un aimant à réception du côté de l'attaque des Rams, vraiment le principal dépositaire de l'attaque de Colorado State ces dernières saisons. On lui reproche peut-être un petit manque de physique, on dira, au duel. mais très clairement, il a cette capacité à être une vraie soupape de sécurité à l'échelon supérieur et à pouvoir proposer un bon profil de bloqueur et surtout une belle aptitude d'un point de vue réception. Parlant de réception, Greg Dulcich, le tight end donc de UCLA qui a vraiment explosé notamment du côté de Los Angeles en 2020 et qui a vraiment confirmé la saison dernière. Là, on est vraiment sur un profil purement receveur. Je ne sais pas si Evan Engram, par exemple, c'est la meilleure comparaison, mais c'est vrai qu'on est un peu sur ce profil de joueur extrêmement agile, assez doué d'un point de vue tracé et réception, mais pour qui le duel physique n'est clairement pas la valeur ajoutée, on dira, en termes de profil. Donc, du coup, ça l'amène plutôt sur un profil de deuxième, troisième tour. On retrouve ensuite Jeremy Ruckert d'Ohio State, plutôt aux alentours du troisième tour selon le consensus. Ça, je ne l'ai pas rappelé, mais consensus qui tient compte notamment des projections qui ont été émises au sein de la rédaction, notamment par Mes Soins et par Jean-Michel et Victor. Donc, on a essayé de faire un petit melting pot, un petit consensus éventuellement des différentes projections qu'on pouvait avoir pour tel ou tel joueur. Jeremy Ruckert, c'est troisième tour. Gros profil de bloqueur, joueur qui, pour le coup, n'a peut-être pas été suffisamment sollicité à la réception, mais dont on sait qu'il peut avoir de bonnes mains. Donc voilà, c'est un peu c'est un semi-sleeper dans le sens où voilà, on sent qu'il peut être amené à être drafté dès le vendredi, mais on se dit qu'il y a peut-être un peu plus à en tirer que ce qu'on a pu en obtenir du côté d'Ohio State durant son cursus universitaire. Et puis si on reste sur la même logique, Isaiah Likely également, sur la même logique plutôt que Greg Dulcich. On a donc Isaiah Likely donc de Coastal Carolina, troisième, quatrième tour. Jelani Woods également de Virginia, troisième, quatrième tour, de profil assez différent. Isaiah Likely, c'est vraiment un profil de receveur capable d'être une vraie menace verticale et d'être relativement agile. Il manque peut-être un petit peu de physique à son CV, si je peux parler ainsi. Jelani Woods, c'est vraiment une armoire à glace qui a surpris réellement au cours de ce processus draft, en tout cas qui est vraiment monté dans la hiérarchie pour s'inviter comme un potentiel candidat aux trois premiers tours. Donc, tout n'est pas complètement rassurant, notamment d'un point de vue vitesse et réception, où ce n'est pas forcément celui qui rassure le plus dans ce domaine-là. Mais en tout cas, il y a une base assez sérieuse pour en faire un bon tight end bloqueur, au moins dans une équipe qui serait notamment axée sur du jeu au sol, comme ça a pu être le cas, comme il a notamment pu être utilisé du côté d'Oklahoma State ou de Virginia au cours de son cursus universitaire. On peut enchaîner sur le reste, Camille, sur les positions 6 à 10. À présent, vous allez le voir, là aussi, il y a un petit tir groupé, hein, que des potentiels candidats à un quatrième ou cinquième tour, en tout cas dans ces eaux-là. Je parlais de Jeremy Rucker tout à l'heure, Cade Otton du côté de Washington, c'est aussi un petit peu Il y a un arrière-goût un petit peu d'amertume du côté de Cade Otton, dans le sens où on voit qu'il est capable peut-être d'être une menace un peu plus sérieuse dans le domaine aérien que ce qu'il a pu proposer du côté de Washington. Attaque très très compliquée du côté des Huskies, mais en l'occurrence on l'a peut-être un peu trop cantonné à un rôle de bloqueur et pas forcément à un rôle de receveur. Et il y a peut-être dans la possibilité, dans sa future franchise NFL, la possibilité d'en faire vraiment un profil assez menaçant avec des mains qui ne seraient pas forcément si mauvaises que ça. Hein. On sait que les tight ends du côté de Washington, ils ont quand même une bonne réputation. Alors, ce n'est pas toujours couronné de succès. Hein. On avait Hunter Bryant, je crois, il y a quelques années, qui n'a pas forcément apporté grand-chose. Will Disley, se fait rare de ma part, c'est quand même bien installé dans la rotation, notamment du côté de Seattle. Donc voilà, du côté de Washington, le poste de tight end, ça reste globalement une valeur sûre. Après, il faut voir éventuellement le plafond qu'on peut obtenir avec les joueurs qui sortent de cette université. Si on reste sur les positions 4-5, Jalen Widermeyer de Texas A&M, gros point d'interrogation. Je vois Sarah Baird notamment qui nous dit qu'il paye son combine malheureusement. Nitinito également qui nous dit qu'il est descendu bien bas. C'est vrai que c'est un petit peu le souci pour Widermeyer dans le sens où c'était un joueur extrêmement prometteur de par son agilité, sa capacité à avoir des bonnes mains. Le souci avec Widermeyer, c'est principalement peut-être d'un point de vue effort, régularité. C'est un profil qui est assez similaire mine de rien à Albert Kogwigbunam, qui était sorti il y a quelques années maintenant, de Missouri, dont on attendait quelque chose d'énorme et dont on a vu qu'en termes de rigueur, peut-être d'éthique de travail, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. C'est ce qui inquiète aujourd'hui les franchises concernant le prospect des Aggies. On a ensuite Jake Ferguson de Wisconsin et Charlie Collard d'Iowa State, deux profils extrêmement particuliers, capables notamment d'aller collecter des premières tentatives. Charlie Collard, on en avait déjà parlé, vraie menace, en tout cas des mains extrêmement intéressantes, et notamment en un contre un, on va dire, sur des positions en zone rouge, ça peut être un joueur extrêmement précieux pour conclure les actions. Jake Ferguson, dans cette ligne-là, voilà, c'est un tight end extrêmement solide, principalement bloqueur du côté de Wisconsin, mais qui a démontré, notamment je crois en 2019, une capacité à être une très bonne menace aérienne du côté des Badgers. Et puis Daniel Bellinger, ça aussi c'est un peu une histoire intéressante du côté de San Diego State. Je crois 0 drop de mémoire en 2021 du côté des Aztecs, qui passe pas énormément non plus, on va pas se mentir, ça court beaucoup du côté de San Diego State. Mais il a eu une année extrêmement productive, avec certes donc une production intéressante d'un point de vue réception, mais peut-être pas une menace suffisante, on va dire, sur du jeu très vertical. Ça reste vraiment du jeu assez court, mais ça n'en demeure pas moins un joueur avec une marge de progression extrêmement intéressante. Et je vois que Jean-Michel nous dit que c'est son petit chouchou. En tout cas, c'est vraiment un joueur qui peut, dans l'équipe adéquate, réussir à se développer de manière extrêmement intéressante à l'échelon supérieur. On peut enchaîner, Camille, sur les positions 11 à 15. On va y venir. Alors, je ne l'ai pas précisé puisque c'est moi qui ai mis le tableau à jour. J'ai laissé tight end seulement en haut. On va parler des tight end fullback. Il y en a quelques-uns qui vont être cités, notamment dans le reste de ce classement, avec que des profils 5e, 6e tour. Plutôt 5e que 6e, entendons-nous bien, mais en tout cas, ça peut flirter à peu près dans ces tours-là, avec Chigozie Okonkwo de Maryland, qui présente un profil extrêmement intéressant, joueur physique avec des mains potentiellement à exploiter, en tout cas dont il a démontré des bonnes qualités lors du combine notamment. Cole Turner de Nevada, pas un physique énormissime, mais là encore une grosse aptitude à être dangereux dans les airs. Et puis on se retrouve avec le premier fullback, donc Connor Hayward, frère de Cameron, me semble-t-il, le defensive end de Pittsburgh, un petit peu l'homme à tout faire très clairement, running back de formation du côté de Michigan State, et qui s'est mué en vrai fullback capable de faire des différences physiquement et de pouvoir apporter le surnombre avec une aptitude à sortir du backfield absolument déroutante. Donc voilà, Connor Hayward, vraiment joueur dur au mal, qui pourra éventuellement dépanner efficacement, notamment dans une équipe qui court beaucoup, comme ça a pu être le cas durant son cursus universitaire du côté de Michigan State. On termine avec deux profils assez intéressants, Austin Allen de Nebraska et James Mitchell de Virginia Tech. Austin Allen, que j'aime beaucoup, c'est pas forcément le joueur le plus impressionnant d'un point de vue gabarit ou vraiment physiquement. C'est vrai qu'il a pas forcément la carrure d'un tight end, mais en tout cas, du côté de Nebraska, ça a été un joueur qui a montré une certaine progression avec des mains assez intéressantes notamment. Donc, ça peut être une bonne option si on recherche un tight end receveur. Et puis, James Mitchell de Virginia Tech qui est clairement tributaire, on peut le dire, d'une blessure, notamment d'une déchirure au ligament subie la saison dernière. Joueur extrêmement complet. Peut-être pas forcément transcendant dans un domaine en particulier, mais joueur assez complet, mais dont on attend de voir si son agilité ne va pas pâtir justement de ses récents problèmes de santé. Donc, c'est peut-être ce qui va l'amener à descendre un petit peu, mais très clairement, il y a un potentiel à exploiter du côté du joueur de Virginia Tech. On peut terminer ce top 20, Camille, avec les positions 16 à 20. On va aller relativement rapidement. Grant Calcaterra d'SMU, Lucas Krull de Pittsburgh et Jeremiah Hall d'Oklahoma aux alentours du 6e, 7e tour. Grant Calcaterra, gros point d'interrogation dans le sens où ça a été une vraie menace aérienne dans l'échantillon qu'on a pu voir en universitaire, que ce soit du côté d'Oklahoma et d'SMU. Gros red flag, grosse alerte rouge concernant Grant Calcaterra. C'est des soucis de commotion répété et pour le coup, ça l'a même amené à prendre sa retraite prématurée avant de revenir finalement du côté d'SMU. Donc, ça va forcément être un point qui va le discréditer, je pense, aux yeux des différentes franchises. Jeremiah Hall, profil assez similaire à Connor Hayward, qui s'est beaucoup plus focalisé sur un rôle de fullback que vraiment sur de la sortie de backfield. Il présente un profil peut-être un peu moins athlétique, c'est ce qui peut l'amener à être moins en vue que son comparse de Michigan State. Et puis après, voilà, pour Tegan Quitoriano d'Oregon State ou pour Gerrit Prince de UAB, l'un profil assez bloqueur, l'autre capable d'avoir des bonnes mains du côté d'Alabama-Birmingham. Ça peut être des joueurs non draftés, comme ça peut être éventuellement des paris qu'on peut tenter en toute fin de draft. En tout cas, voilà, je pense qu'on sera à peu près vers 17-18 tight ends sélectionnés. Et a priori, c'est l'avis de mes deux comparses, Jean-Michel et Victor. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la position de tight end. On va pouvoir désormais parler, mon cher Camille, des Roulier's Boys. Puisqu'on peut le dire, running back, les RB, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Vous le savez, ce sont les gars sûrs de Victor Roulier, ses chouchous, très clairement, habituels. Donc, on va en parler. Je rassure tout de suite Victor s'il est sur le chat. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être il n'y a pas de running back au premier tour. Hein, il y a un peu contribué, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément la meilleure classe à ce niveau-là pour aller chercher un coureur dès le jeudi, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, parce qu'on se rappelle que Enadji Harris et Travis Etienne avait été sélectionné dès le premier jour de la draft respectivement par les Steelers et les Jaguars. Donc on commence dès à présent avec ce top 5 au niveau des running backs, des profils assez intéressants malgré tout, avec notamment des joueurs très physiques pour commencer. C'est le cas de Kenneth Walker et de Breece Hall, attendus aux alentours du deuxième tour. Je l'ai dit, un profil assez physique, une très bonne vision du jeu, une capacité à casser des plaquages. C'est des joueurs qui ont été pas mal sollicités, mine de rien, beaucoup plus Breece Hall que Kenneth Walker, hein, qui était plus utilisé au niveau de la zone rouge, notamment lors de son passage du côté de Wake Forest, et qui a obtenu un peu plus de temps de jeu à Michigan State la saison dernière. Breece Hall, c'est vraiment un homme à tout faire, mais vraiment un joueur qui joue principalement sur son aptitude à réussir à casser les plaquages une fois qu'il a trouvé les espaces. Donc voilà, deux profils assez intéressants d'un point de vue, en tout cas, assez complet dans le côté physique et rapide. Voilà, c'est pas les plus rapides du plateau, c'est pas les plus physiques, mais en tout cas, c'est ceux qui représentent le meilleur combo à ce niveau-là, et c'est ce qui peut éventuellement les amener à être sélectionnés dès le deuxième tour. Je reprécise, puisque ça, je l'ai dit hier et je le redis également, ça, c'est une erreur de ma part de ne pas les avoir classés alphabétiquement parlant. Si vous avez deux joueurs qui ont la même projection, comme c'est le cas de Walker et de Hall, ça ne veut pas forcément dire que l'un va partir avant l'autre. Voilà, c'est des classements qui ont été établis comme ça, qui s'appuient en grande partie sur le classement que j'ai fait moi-même de mon côté. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai recopié les noms comme ça. Mais encore une fois, Breece Hall peut très bien être drafté avant Kenneth Walker et vice-versa. Il n'y a pas de vérité absolue sur qui est meilleur que l'autre quant au classement, quant aux positions. Voilà. Les projections sont plus importantes que les positions, je le répète de nouveau, au cours du live de ce soir. Les trois autres joueurs, donc on a James Cook de Georgia, Isaiah Spiller de Texas A&M et Tyler Allgeier de BYU, attendus aux positions à deuxième et troisième tour. Des joueurs qui ont besoin de rassurer dans certains domaines. James Cook, on le rappelle, c'est un profil extrêmement particulier dans le sens où c'est un joueur qui est une vraie menace, notamment d'un point de vue réception. Joueur assez agile, mais qui n'a pas forcément une énorme charge de travail sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Donc, présente pas forcément les mêmes garanties qu'un Dalvin Cook, par exemple. Après, ça reste une menace en termes de yards, j'allais dire après réception, ou en tout cas de yards tout simplement dès le ballon en main. Donc voilà, c'est une menace clairement verticale qui aura des suiveurs, des franchises intéressées à n'en pas douter. Donc James Cook, ça reste le nom qui grimpe au niveau de cette hiérarchie des running backs. À l'inverse, Isaiah Spiller, ça a été longtemps un des tout principaux running back cité, profil assez complet, il n'y a pas beaucoup de défauts, on dira, dans le jeu d'Isaiah Spiller. Peut-être un peu le pass pro, où il peut s'améliorer, et ça va être une clé pour pas mal de running back dans la NFL moderne, qui demande à beaucoup de joueurs de savoir protéger le jeu de passe. Voilà. Après, il manque peut-être un critère, un profil qui fait qu'Isaiah Spiller sera extrêmement courtisé par une franchise, mais à n'en pas douter, ce sera en tout cas très étonnant qu'il ne soit pas sélectionné dans les trois premiers tours de la draft pour être potentiellement un running back numéro 1 assez rapidement dans sa carrière. Et Tyler Allgeier du côté de BYU, joueur assez intéressant, un gabarit assez compact, une bonne vision du jeu, des appuis intéressants également. Donc voilà, là encore, on est dans du profil complet qui peut être amené à être un running back numéro 1 assez rapidement. Et une menace également verticale. On l'a vu glaner beaucoup de gains conséquents du côté de Brigham Young, notamment ces deux dernières saisons. Hein. Il a notamment tenu l'attaque de BYU à bout de bras l'année dernière, malgré le départ de Zach Wilson et du coordinateur offensif. Donc voilà, on a affaire à un joueur régulier et qui aura pas mal, je pense, de suiveurs, on va dire, au cours de la draft à venir. On enchaîne sur les positions 6 à 10, Camille, avec un autre profil également qu'on sera amené à retrouver relativement haut, c'est Brian Robinson d'Alabama, deuxième, troisième tour, qui fait partie de cette nouvelle caste des joueurs d'Alabama avec un physique assez robuste, on va dire, en tout cas vraiment un beau bébé sur le papier, mais une capacité vraiment à être intéressant en sortie de backfield. Il lui manque peut-être un petit peu plus de constance à Brian Robinson, un petit peu de régularité dans l'effort, mais c'est un joueur très clairement qui présente, on va dire, qui vraiment est assez intelligent dans sa vision du jeu, tout simplement, et dans sa capacité à être, à avoir des appuis et à saisir vraiment les espaces qui se présentent à lui. Son accélération est pas dingue, ça aussi, ça peut jouer en sa défaveur. Avec peu de gains vraiment conséquents durant son cursus universitaire, mais on a vu sur certains matchs qu'il était capable de prendre feu et d'être vraiment très important et très intéressant pour son programme et pour, en l'occurrence, la prochaine franchise qui le prendra. Sur les autres joueurs, on a donc Karen Williams de Notre-Dame, Cynthia McCormick de UTSA, Pierre Strong de South Dakota State, Damien Pierce de Florida, des profils assez différents. Karen Williams, c'est un gros point d'interrogation. Joueur qui, pour le coup, est capable d'être extrêmement intéressant du côté de Notre-Dame, notamment d'un point de vue pass-pro. C'est peut-être un des tout meilleurs dans cet exercice-là. Il est capable également d'apporter en sortie de backfield avec vraiment un profil assez longiligne et agile pour réussir à se défaire des plaquages. Le gros problème de Kyren Williams, c'est peut-être tout simplement son utilisation au niveau du backfield en tant que tel. Sa vision n'est pas forcément mauvaise, mais c'est vrai qu'on l'a vu quand même sur des moments où la O-line de Notre-Dame était un peu plus en difficulté. Il a également été en difficulté et ça risque éventuellement de lui poser quelques problèmes, en tout cas de jouer en sa défaveur pour marquer sa différence vis-à-vis d'autres joueurs de cette classe. Damien Pierre, je vois qu'on en parle sur le chat, c'est Baptiste en l'occurrence qui nous dit « meilleur bloqueur de la QV ». En tout cas, c'est un homme à tout faire, Damien Pierce. Là encore, on rentre dans le profil du joueur qui a sans doute été sous-utilisé du côté de la franchise, du programme, pardon, dans lequel il a évolué, donc du côté de Florida. On voit que c'est un joueur extrêmement intense sur chaque portée de ballon, extrêmement vif, là aussi d'excellents appuis. Une vision qui n'est pas forcément déconnante, mais donc très franchement, Damien Pierce, ça peut être un profil. Peut-être plus dans un backfield pardon de comité en tant que numéro un absolu, j'en suis pas persuadé, mais en tout cas il y a vraiment une belle marge de manœuvre une marge de progression en tout cas vu ce qu'on en voit et vu ce qu'on en a vu au cours de ces derniers mois du côté des Gators et surtout au cours de ce processus draft. Pierre Strong, joueur dont on parle assez peu, joueur de deuxième division universitaire de South Dakota State, mais qui a été une vraie machine à gros gains du côté de South Dakota State. Alors, encore une fois, face à des programmes qui n'étaient peut-être pas extrêmement huppés, mais là encore, il y a un physique assez compact, il y a une vision du jeu qui est non négligeable. Il y a quand même des attributs qui pourront lui permettre d'être un joueur intéressant à développer à l'échelon supérieur. Sipanos qui me dit « Je ne vois pas de Rashad White encore, que se passe-t-il ici ?» Bien, rassure-toi, il n'est pas très très loin, parce qu'on va enchaîner sur les positions 11 à 15. Et le voilà, Rashad White d'Arizona State, accompagné d'Asan Haskins de Michigan, de Tyler Beatty de Missouri, de Jerome Ford de Cincinnati, de Zamir White de Georgia. Très clairement, je vais le dire tout de suite, on est sur des positions, en tout cas sur des projections qui sont extrêmement resserrées. Ça joue vraiment dans un mouchoir de poche. C'est noté 3-4, 4-5, mais ça peut très bien être interchangeable avec des joueurs plutôt draftés devant les autres, par exemple au quatrième tour. Il n'y a pas de vérité absolue, notamment sur les spots 7. À 15, on a vu par exemple un Zamir White qui a fait un très très bon processus draft, notamment un très bon combine, mais dont la production du côté de Georgia a peut-être été un petit peu en deçà de ce à quoi on pouvait s'attendre. Jerome Ford de Cincinnati, là aussi, c'est un joueur capable d'être assez vif, élusif, comme on dit outre-Atlantique, mais à qui manque peut-être cette capacité, ce cet élément supplémentaire pour se dire que son plafond est encore relativement élevé. Hassan Haskins du côté de Michigan, qui lui est un coureur pur et dur, une efficacité vraiment notamment sur du jeu physique pour réussir à casser les plaquages sans dropper le ballon, c'est peut-être le meilleur dans cet exercice-là en termes de sécurité de balle lors de sa sortie d'université. Et puis Rashad White, c'est un profil d'homme à tout faire, joueur vraiment revanchard qui est arrivé du junior college du côté d'Arizona State et qui a vraiment été détonnant au niveau du backfield des Sun Devils. Extrêmement intéressant en sortie de backfield, ça on a cessé de le répéter. Il lui manque peut-être des aspects dans son jeu pour être un vrai running back attitré, hein, là encore sur du profil un petit peu backfield, pour être pleinement dangereux, mais très clairement on a affaire à un joueur qui peut être intéressant à développer, ne serait-ce que pour écarter le jeu. Je pense que dans une attaque très très aérienne, Rashad White au niveau du backfield, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Je donne un exemple, hein, mais du côté d'Arizona par exemple, un Rashad White, ça lui permettra en plus de rester du côté de l'état dans lequel il a évolué ces derniers mois. À mon sens, ce ne serait pas quelque chose de déconnant. On termine avec le top 20 sur le poste de running back, avec quelques noms là encore qu'on connaît un petit peu. Abraham Smith du côté de Baylor, le revanchard, donc l'ancien linebacker qui a démontré notamment une grosse intensité sur du jeu au sol. On est plus sur du profil physique et rapide, même s'il n'a pas forcément une grosse accélération, Abraham Smith. On a ensuite des profils de running back un petit peu receveur, capable en tout cas d'apporter le surnom dans le domaine aérien. C'est le cas notamment de Ty Chandler et surtout de Jerrion Ely d'Ole Miss, qui est une vraie petite pile électrique en sortie de backfield. Donc ça va être également des joueurs qui pourront dépanner notamment dans des comités dans un premier temps. Et puis Devante Price notamment, alors ça c'est un petit chouchou personnel de Florida International, 6e, 7e tour, gros projet parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre concrètement. Il y a un profil physique qui n'est pas dingue, il y a une accélération qui n'est pas folle non plus, mais c'est un joueur vraiment qui a été extrêmement régulier du côté de Florida International malgré un programme autour de lui qui tombait en lambeaux. Donc, très clairement, ça peut être une très, très bonne surprise de cette classe. C'est un potentiel gros sleeper à surveiller, Devante Price de Florian International. Jason Corbin également, qui peut être amené à dépanner dans pas mal de secteurs et qui a été là aussi un coureur assez intéressant, notamment dans tout ce qui est yards après contact. On voit que c'est rarement un joueur qui tombe dès l'impact. Donc, joueur éventuellement à surveiller. Il y avait d'autres running backs qu'on aurait pu sortir. Je sais que Tyrion Davis Price, par exemple, d'LSU, n'était pas loin du tout. Enfin voilà, il y avait quelques joueurs également qui se tiraient la bourre là-dessus. Mais on est de toute façon, je le répète, dans une classe de running back extrêmement homogène. On peut enchaîner, Camille, avec notamment les big guys, pour le coup, avec les linemen. Et on va commencer par l'intérieur. Alors attention, il va commencer à y avoir des désaccords, puisque vous allez voir, il y a sans doute des joueurs que vous attendiez de tackle dans cette liste. Et voilà, on expliquera rapidement un petit peu ce qui peut les péjorer là-dessus. On va commencer par ce top 5 concernant les linemen intérieurs. Pas trop de surprises au niveau du premier tour, avec notamment Tyler Linderbaum, l'hyper athlétique centre d'Iowa. Donc Tyler Linderbaum qui devrait faire le plaisir notamment d'équipes qui jouent sur du décrochage. Enfin voilà, c'est vraiment un joueur, il y a très très peu de choses à dire. D'un point de vue technique, physique, athlétique, sur ce que peut apporter Linderbaum dans sa future franchise en NFL. Donc très clairement, un top 15 quasiment sûr. Enfin, en tout cas, même si la position est souvent dévaluée, ce serait très étonnant qu'il ne soit pas le premier lineman intérieur drafté et encore moins hors du top 15. Zion Johnson, là aussi, joueur assez complet, technique notamment, avec une très très belle en tout cas avec un physique extrêmement dissuasif, à tel point qu'on l'a testé et en tant que garde et en tant que centre sur l'intérieur de la ligne, plutôt pressenti pour être garde dans un premier temps, mais en tout cas il présentera non seulement une certaine polyvalence mais en plus une capacité à être performant sur à peu près tous les compartiments du jeu. Donc voilà, ce sera sûrement un joueur extrêmement surveillé au cours de ce premier tour. On enchaîne ensuite avec Kenyon Green, donc de Texas A&M, et Darian Kinnard de Kentucky. Kenyon Green, premier, deuxième tour. Il y a quelques petits points d'interrogation sur Kenyon Green qui a été essayé sur beaucoup de positions du côté d'A&M. Joueur plutôt performant en termes de protection de passe et dans une attaque extrêmement aérienne, ça devrait ravir sa future franchise. Sur du jeu au sol, il est déjà un peu plus suspect à mon sens. Mais voilà, il y a une marge de progression en tout cas qui est là parce que c'est un athlète hors norme. C'était une grosse recrue à sa sortie du lycée et ce sera à n'en pas douter un joueur potentiellement draftable dès le jeudi. Darian Kinnard, ça, il peut être considéré comme un tackle, disons-le tout de suite, mais c'est vrai qu'il a notamment un profil extrêmement dissuasif d'un point de vue physique. Techniquement, il s'en sort pas mal aussi. C'est sans doute l'agilité qui peut lui jouer des tours et sa mobilité qui peut éventuellement pousser sa future équipe à éventuellement le recentrer. Il n'y a pas de vérité absolue encore là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a, quand même un ressenti global au niveau des échos qu'on peut avoir au sein de la Ligue, comme quoi il ferait plutôt un meilleur joueur intérieur qu'un tackle à l'échelon supérieur. Jamari Sawyer de Georgia, là encore, on a affaire à un gros battant, un joueur qui présente quelques problématiques en termes de mobilité, là encore, ce qui le discrédite un peu sur le poste de tackle, notamment à gauche, là où il a longtemps évolué du côté de Georgia. Mais voilà, du côté des Bulldogs, on a vu que le jeu au sol, ça restait le mantra véritablement de Georgia depuis des années et des années maintenant. Jamari Sawyer a vraiment été extrêmement performant dans cet exercice-là. Donc, il fera à n'en pas douter un bon garde, peut-être un centre selon certains, mais plus vraisemblablement un garde à l'échelon supérieur. Je regarde un petit peu parce que je vois que l'Oxy 25 me demande s'il y a un réel écart entre Linderbaum et Johnson. Ça a tendance à se resserrer un peu. Je ne dis pas que Johnson ne sera pas, n'a pas des chances d'être le premier lineman intérieur sélectionné. Maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour Linderbaum, mais il y a quand même la possibilité de pouvoir éventuellement utiliser Linderbaum en tant que garde, même si son poste principal et le poste dans lequel il a évolué était centre à l'université. Mais on se rend compte quand même que voilà, Linderbaum, il y a un profil vraiment purement athlétique, réactivité, mobilité, etc. Plein de choses qui font que Linderbaum, en tant qu'athlète, paraît quand même à un niveau au-dessus de Zion Johnson. Et on sent qu'il y a encore des choses à en tirer. Ce qui est le cas pour les deux hommes. On sent que du côté de Linderbaum, c'est encore plus... On est vraiment sur du calibre all-pro très, très régulier du côté de Linderbaum. Et c'est ce qui m'amène à me dire que voilà, même si Zion Johnson a un profil très intéressant et un profil de très bon titulaire à l'échelon supérieur, avec lui aussi un profil, pourquoi pas, de très bon lineman intérieur en NFL, ce sera peut-être quand même un peu moins glamour que Tyler Linderbaum au moment où il faudra sélectionner les deux hommes. Donc voilà, pour répondre à la question, l'écart n'est pas monstrueux, ça jouera peut-être à 5 ou 10 places d'écart. Mais voilà, je vois quand même Linderbaum quand même un petit peu au-dessus. Et vraisemblablement, en tout cas, je pense qu'encore une fois, les deux joueurs sont pressentis au premier tour et il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Mais je pense que mes comparses seront relativement d'accord. Ils donneront leur avis en tout cas la semaine prochaine ou s'ils sont sur le chat, qu'ils n'hésitent pas à le donner. On peut enchaîner, Camille, sur le reste, les positions 6 à 10 au niveau de ces linemen intérieurs. Là encore, on ne va pas forcément être d'accord concernant Tyler Smith. Pas forcément d'accord sur plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, sur la position, puisqu'on a notamment un joueur qui a longtemps été annoncé en tant que tackle, Tyler Smith du côté de Tulsa, mais qui présente quand même un avantage assez intéressant, c'est sa capacité à être vraiment dangereux d'un point de vue physique. Il a une explosivité, mais qui reste encore peut-être mal exploitée par moment, un joueur encore assez brut dans ce qu'il peut proposer au niveau de la protection de passe. Mais ça ne veut pas dire que sur la durée, à long terme, il ne soit pas capable d'être un bon tackle. Et c'est vrai que Niti Nito le dit sur le chat, Tyler Smith, c'est l'autre peut-être point de désaccord, c'est la projection. Vraisemblablement, on part sur un deuxième, troisième tour. Maintenant, on n'est clairement pas à l'abri puisqu'on sait que chaque année, il y a potentiellement un profil athlétique sur lesquels les franchises craquent et qui peut les amener peut-être pas forcément à reacher, donc à prendre le joueur plus haut, mais en tout cas à se dire que l'investissement peut être plus payant dès le premier tour. Pourquoi pas tout simplement protéger avec une cinquième année optionnelle de contrat pour garder le joueur plus longtemps, hein, comme ça peut être le cas quand on sélectionne un joueur au premier tour. Tyler Smith, ça peut également être un premier tour de par ce point de vue-là. Si on considère que c'est plus un lineman intérieur, ce sera un deuxième ou troisième tour. Si on considère que vraiment à terme, il peut avoir le potentiel d'un tackle, ce sera sûrement, ce sera en tout cas tentant de le prendre aux alentours du premier tour. Ensuite, on retrouve donc toujours aux alentours du deuxième, troisième tour. On a Cole Strange de Chattanooga, joueur assez athlétique, vraiment assez explosif dès le snap. Un échantillon technique, on dira quand même, à perfectionner là encore, surtout que bon, du côté de Chattanooga, il y a peut-être un, à se perfectionner très clairement, parce que là encore, on reste sur de la deuxième division universitaire, donc il faut encore rassurer dans ce domaine-là pour vraiment se dire que c'est un joueur qui va être pleinement performant en NFL. Et puis Sean Ryan également de UCLA, deuxième, troisième tour, joueur qui a longtemps joué de tackle du côté de UCLA. Le profil athlétique est là. Maintenant, c'est vrai que là encore, c'est peut-être d'un point de vue technique qu'il faut que Ryan se perfectionne pour... voilà, on va dire la technique dans les espaces, le placement des mains est pas souvent optimal. Donc, pour être amené à protéger le quarterback sur l'extérieur, ça peut lui poser quelques problèmes. C'est ce qui l'amène à être en position de garde. Alors, on a Dylan Parham ensuite de Memphis et Ed Ingram de LSU. Dylan Parham, je vais le dire tout de suite, moi, c'est un des joueurs que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette classe. Mais là encore, il y a des consensus qu'il faut faire. Ça nous amène à le voir plutôt aux alentours de la troisième ou quatrième position. En tout cas, c'est un joueur qui est globalement assez complet, vraiment doté de qualité athlétique. Là aussi, on a vraiment des linemen intérieurs extrêmement impressionnants d'un point de vue qualité athlétique, d'un point de vue explosivité. On a presque des linemen qui ont des physiques, alors je ne vais pas dire de safety, mais en tout cas, c'est vrai que des linemen presque de edge rusher, hein, je pense qu'on peut le dire. Des joueurs qui sont à moins de 300 pounds, donc ça doit être aux alentours de, je dirais, 120-130 kilos, sans dire de bêtises. Mais voilà, c'est des profils qui restent étonnamment athlétiques. On parlera sûrement d'autres joueurs dans cette lignée-là. Mais Parham en fait partie, et c'est vrai qu'il va peut-être lui falloir prendre un petit peu de gabarit également pour éventuellement être un garde émérite à l'échelon supérieur, voire potentiellement un centre, puisque ça a été évoqué également, la possibilité qu'il puisse vraiment se recentrer vu le potentiel qu'il a démontré du côté de Memphis durant son cursus universitaire. Ed Ingram, là aussi, on est sur du profil joueur que j'aime beaucoup du côté d'LSU, qui a eu un chemin un peu semé d'embûches, revenu un petit peu revanchard. Un profil assez similaire à celui notamment de Neil Farrell, dont on a parlé hier rapidement sur la ligne défensive. Là, pour le coup, on est sur un joueur qui est quand même assez complet, qui manque peut-être de constance, je pense, notamment d'un point de vue technique. Mais ça peut en effet être une très très bonne surprise si on est amené à le drafter aux alentours du troisième, voire même quatrième tour. Ça peut être un potentiel steal au quatrième. Ingram, un joueur à développer, qui est peut-être pas NFL ready, qui ne sera peut-être pas NFL ready dès son premier jour, mais qui avec un coaching staff peut quand même être performant assez rapidement chez les pros. On enchaîne avec la suite. Camille, avec les positions 11 à 20, avec notamment Alec Lindstrom, donc de Boston College. On a Tyler Munford d'Ohio State et Lesitu Smith de Virginia Tech. Là encore, je vais un petit peu me répéter sur pas mal de domaines. Alors, ce ne sera pas forcément le cas d'Alec Lindstrom, qui lui, en l'occurrence, paye peut-être plus un gabarit qui peut là aussi, on en revient toujours à la même chose, le discréditer sur la position de centre, en tout cas le mettre en difficulté. Mais là encore, il y a un profil athlétique et technique, un petit peu à l'instar d'ailleurs de son coéquipier Zion Johnson sur la O-line de Boston College. Il y a des éléments à mettre en évidence, mais il n'y a pas le même physique que son camarade des Eagles. Donc, c'est des éléments à développer, mais en tout cas, le profil est assez intéressant. Le petit frère donc de Chris qui évolue aujourd'hui du côté des Falcons. Tyler Munford du côté d'Ohio State, des problématiques notamment techniques là encore, ancien tackle qui a dû se recentrer un petit peu, mais dont on sent que le travail est encore notable, notamment d'un point de vue centre de gravité. Il y a un peu les mêmes défauts à ce niveau-là d'ailleurs, je trouve, que Wyatt Davis l'année dernière, même s'il n'y a pas le même potentiel. Très clairement, Davis était attendu un petit peu plus haut. Tyler Munford, pourquoi pas, ça reste un joueur qui a été assez performant et assez complet dans une attaque équilibrée comme pouvait l'être celle d'Ohio State. Donc, pourquoi pas, ça... les linemen intérieurs d'Ohio State sont rarement des mauvais paris. Donc, pourquoi pas avoir une équipe intéressée dès le vendredi. Et puis, Lesitu Smith de Virginia Tech, là, on a affaire à un profil assez brut, physique, qui n'est pas forcément doté d'une mauvaise technique. C'est plus d'un point de vue agilité, on dira, où ça peut poser problème, on va dire, fluidité de mouvement. Mais encore une fois, on parle d'un garde. Donc voilà, dans une équipe qui aime être assez agressif d'entrée, ça peut être un élément à prendre en considération, le fait d'avoir Lesitu Smith au sein de son roster. Cam Jurgens de Nebraska, donc pressenti au quatrième tour. Alors j'ai vu, c'est Nolive 9, je crois, qu'il disait que c'est un chouchou. Jürgen, c'est un peu la même chose que Parham. C'est-à-dire que vraiment, c'est un profil extrêmement atypique. Un joueur, je me demande si c'est pas un ancien tight end. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, ça fait partie de ces nombreux joueurs de ligne offensive, ces nombreux joueurs un petit peu reconvertis, provenant d'une ancienne position. Et on voit qu'il y a des qualités athlétiques vraiment indéniables dans ce qu'a pu proposer Cam Jurgens, notamment par le biais du combine, en effet, comme ça a été signalé. Il y a malgré tout, je trouve, techniquement, au niveau du bas du corps, notamment des attributs qui peuvent jouer en faveur de Cam Jurgens. Après, il va falloir quand même prendre en masse et surtout avoir peut-être plus de répondants au niveau du défi physique, parce que sur le bull rush, ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué pour le joueur de Nebraska. Lute Fortner également de Kentucky, profil extrêmement polyvalent hein, sur la O-line des Wildcats, où il a évolué du coup avec Darian Kinnard. Là, pour le coup, c'est un petit peu le phénomène inverse de Jurgen, c'est-à-dire qu'il y a un gabarit physique indéniable, il y a une technique qui n'est pas déconnante non plus, joueur qui peut dépanner en tant que garde, en tant que centre éventuellement si besoin s'en fait sentir, mais voilà, donc il y a quand même une réactivité, on dira, notamment sur la protection de passe, à optimiser du côté du joueur de Kentucky. On termine avec ce classement sur les linemen intérieurs, avec notamment Donovan West d'Arizona State. Il me semble que Jean-Michel aime beaucoup ce joueur, hein, s'il est encore sur le chat. Mais Donovan West, vraiment belle prestation du côté d'Arizona State, joueur extrêmement agressif. Là encore, il va peut-être falloir perfectionner un petit peu son agilité, en tout cas se faire une idée un peu plus précise de ce qu'il peut donné à l'échelon supérieur, mais très clairement c'est un joueur qui techniquement et d'un point de vue je le répète, intensité sera pas forcément péjoré, on dira, dans l'optique de la draft. Après, on reste sur des profils assez polyvalents. C'est le cas de Cade Mays, notamment, qui peut dépanner en tant que garde et en tant que centre du côté de Tennessee. Chris Paul également, qui a pu évoluer en position de garde et de tackle. Je pense que ce sera avant tout des joueurs de rotation, en tout cas dans un premier temps, mais en tout cas ça peut être des joueurs assez intrigants à l'échelon supérieur et des joueurs qu'on pourra utiliser un petit peu partout. Chris Paul, qui a joué tackle notamment du côté de Tulsa, mais qui est plus pressenti pour être un garde à l'échelon supérieur, notamment d'un point de vue agilité. Et puis Ken Mays, qui peut dépanner en tant que garde, mais qui sera peut-être plus sûrement un centre à l'échelon supérieur. On peut enchaîner, Camille, avec notamment les tackles. On va rester sur la ligne offensive avant de parler des QB et des receveurs un petit peu plus tard. Je sais que la catégorie des receveurs sera très très attendue. On va commencer par le top 5 des tackles. Pas beaucoup de surprises en soi, hein. Les quatre premiers, globalement, on les connaît. Ike Emekwonu d'NC State, Evan Neal d'Alabama, Charles Cross de Mississippi State ou encore Trevor Penning de Northern Iowa. Des qualités assez différentes. Charles Cross, qui mise beaucoup sur la mobilité et le bon placement des mains, notamment pour en faire un très bon tackle gauche. Ike Emekwonu, c'est vraiment l'agressivité avant tout, la puissance notamment dans l'impact, ce qui a longtemps amené les observateurs à considérer comme un garde, mais on voit qu'il y a quand même de quoi être suffisamment agile, ce qu'il faut en tout cas, pour pouvoir évoluer en tant que tackle à l'échelon supérieur. Evan Neal, là encore, lui, il y a une puissance qui est là, il y a peut-être encore une technique à perfectionner, mais on voit que tout va globalement dans le bon sens pour le joueur d'Alabama, qui reste un phénomène athlétique indéniable, et il sera quand même assez compliqué de l'imaginer hors du top 10 lors de cette draft 2022. Trevor Penning, est-il utile encore de le présenter? Voilà, joueur, la touche poésie, j'ai envie de dire, de cette draft 2022. Joueur extrêmement agressif au contact, doté malgré tout d'une agilité assez étonnante pour son profil. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas affronté que des top programmes au niveau de la deuxième division universitaire au sein de Northern Iowa. Techniquement, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, il y a très franchement une bonne base. Je ne sais plus qui l'avait posé dans la question, je vais peut-être y revenir tout à l'heure. On nous disait, est-ce que top 15, ce n'est pas un peu galvaudé pour Trevor Penning? Honnêtement, on voit quand même qu'il semble avoir l'exigence, l'intensité qu'on peut avoir en NFL. C'est vrai qu'il y a beaucoup de comparaisons avec, je crois que c'était Tyler Decker, notamment le tackle des Lions, qui était anciennement du côté d'Ohio State, j'ai vu revenir ça, qui avait été drafté au premier tour, en l'occurrence par les Lions, en quelle position, je ne sais plus, mais je crois que c'est aux alentours de la 20e place. Malgré tout, un top 15, vu la classe de tackle qui est celle-ci, Et vu qu'on est malgré tout sur une cuvée où il va y avoir beaucoup d'équipes intéressées malgré tout pour aller chercher un tackle gauche, Trevor Penning, ce ne sera pas forcément quelque chose de déconnant dans le top 15. En tout cas, ce sera pas forcément cher payé pour l'équipe qui le récupérera. Bernard Raymond, pour terminer, du côté de Central Michigan, joueur dont vous pouvez retrouver la fiche, hein, qui a été publiée, je crois, il y a pas très très longtemps sur le site de TDA. Joueur autrichien, donc, qui a découvert le football américain très très tardivement, ancien tight end, il me semble, et qui s'est révélé très clairement sur la ligne offensive, qui semble étonnamment poli d'ores et déjà, notamment d'un point de vue technique et d'un point de vue explosivité. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu de coffre encore à récupérer de la part de Bernard Raymond, peut-être quelques fondamentaux également. Sur la technique, notamment du perfectionné, notamment sur le bas du corps, sur le placement, pour être vraiment un tackle émérite. Mais voilà, Malaki qui nous dit ce matin la fiche du Rayman. C'est bien ce qui me semblait bien l'avoir vu passer il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, voilà, on est dans le côté premier et deuxième tour. C'est-à-dire que s'il y a une équipe, un petit peu comme Tyler Smith tout à l'heure, s'il y a une équipe qui sent que ce sera un bon tackle gauche à l'échelon supérieur, Et on va se laisser tenter. De toute façon, on sait qu'en fin de premier tour, il y a souvent des paris un petit peu osés sur les tackles. Bernard Raymond peut être l'un d'eux. Nolive 9 qui nous dit, est-ce que Penning est loin des trois premiers? Il y a quand même un petit écart qui semble se dégager. Voilà. Par rapport aussi à ce que je disais, le niveau de compétition des uns et des autres, on a vu que Trevor Penning, du côté du Senior Bowl, notamment l'opposition, même contre des joueurs de première division, c'est pas quelque chose qui lui faisait peur. Maintenant, voilà, il y a aussi ces petits points d'interrogation qui seront à écarter et qui le mettent un petit peu en retrait. Il y a un profil purement athlétique là encore, puisque même si Penning est étonnamment athlétique par rapport à son profil, il est peut-être pas aussi intéressant que peuvent l'être d'autres joueurs. On sent peut-être pas une marge de progression aussi détonnante que pour les trois premiers. Donc oui, là encore, c'est plus un milieu de premier tour, alors que les autres sont clairement, à mon sens, top 10, voire mieux. On enchaîne avec les positions 6 à 10, Camille. Avec notamment, et ça, je sais que c'est un joueur qui sera une grosse, grosse intrigue, Daniel Falale de Minnesota, deuxième, troisième tour. On a également Abraham Lucas de Washington State, deuxième, troisième tour. Deux joueurs qui ont un point commun, c'est le fait d'arriver en NFL avec un profil assez brut, dans le sens où Daniel Faalale, alors on va le dire, c'est vraiment il y a Jordan Davis en défense et il y a Daniel Faalale en attaque. C'est-à-dire que on met les deux sur un banc, il ne reste plus beaucoup de place. Mais oui, non, c'est vraiment une force de la nature en tant que tel. Daniel Faalale, joueur australien qui a découvert là aussi le football américain assez tard, qui continue d'ailleurs d'en apprendre les fondamentaux, mais dont on voit qu'il y a une grosse, grosse marge de progression. Son problème principal, on dira, du côté de Minnesota, c'est d'avoir évolué principalement dans une attaque qui était extrêmement axée sur le jeu au sol, ce qui n'a pas empêché les nombreux coureurs qui ont été utilisés l'année dernière d'être performants, et ça en dit long sur le niveau de la O-line, dont le niveau de Faalale. Et puis Abraham Lucas, lui, là aussi, ça va peut-être plus être un problème d'environnement, parce que forcément, du côté de Washington State, on l'a beaucoup mis dans des contextes où il fallait qu'il défende un petit peu la passe dans un système vraiment prédéterminé, mais du coup, il n'y a sans doute pas suffisamment de choses qu'Abraham Lucas peut faire. On l'a sans doute envisagé de par son profil, qui n'est pas forcément le gabarit type d'un tackle comme un potentiel garde. Ça a rapidement été.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
écarté. Et ça peut être un tackle intéressant, mais ce sera sans doute un joueur plus à développer dans un premier temps de par ces données-là. On enchaîne ensuite avec Nicolas Petitfrère, donc d'Ohio State, et Kellen Dish d'Arizona State. Nicolas Petitfrère, grosse recrue en sortie de lycée quand il arrivait du côté d'Ohio State, donc joueur d'origine haïtienne, d'où son nom. Joueur qui, malgré tout, a montré un certain de grosses lacunes d'un point de vue technique. Hein. Il suffit de voir son match, par exemple, contre Michigan pour voir à quel point il a été exposé, notamment par le duo Tinson-Ojabo. Donc il y a une grosse marge de travail à ce niveau-là pour Nicolas Petitfrère, qui aurait peut-être gagné à rester une année de plus en universitaire, mais en tout cas il y a un profil physique et athlétique qui reste extrêmement intéressant de sa part. Il y a une base en tout cas qui est pas forcément déconnante. Kellen Dish, grosse intrigue. Je sais que beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'analystes apprécie son profil. Là aussi, on est sur du tackle assez longiligne, étonnamment athlétique. C'est sans doute d'un point de vue technique, éventuellement, à mon sens, que Kellen Dish doit se perfectionner pour être vraiment un joueur suffisamment efficace à l'échelon supérieur. Et puis, bien entendu, d'un point de vue physique, je le disais, voilà, quand on entend jouer tackle à l'échelon supérieur avec un profil aussi longiligne que le sien, je retrouvais un petit peu son poids. Il est à peine au-dessus de 300 pounds. Donc très clairement voilà, on a quand même des profils au niveau des tackles un petit peu classiques. Si je prends l'exemple des Kwonu, il est quand même à 320-330. Bon, Fall Allé est à 390, mais c'est une petite anomalie. Donc très clairement Kellen Dish va falloir se muscler un peu en espérant très clairement que le niveau de jeu et les qualités athlétiques n'en pâtissent pas à terme. Joe Gactu qui me dit qui n'a pas mangé entre Tinson et Ojabo. C'est vrai, mais dans de telles proportions, c'est un peu compliqué. Tu vois, pour le coup, on parlait de Jamari Sawyer tout à l'heure de Georgia. Il s'en est un peu mieux sorti alors que c'est potentiellement un lineman intérieur à l'échelon supérieur ou en tout cas un joueur qui peut présenter des difficultés sur le pass pro. Là, pour un joueur que t'attends tackle en NFL, ça peut quand même être quelque chose de compliqué. Voilà. Et Max Mitchell, alors lui, c'est vraiment la touche technique, on dira, de cette classe du côté de Louisiana, très performant sur le jeu au sol, mais dont la robustesse au duel et l'agilité, on dira, peuvent peut-être le discréditer, en font encore aujourd'hui un projet au niveau de cette classe de tackle. On peut enchaîner sur la suite, Camille, avec les positions 11 à 15 dans ces tackles, avec notamment Rashid Walker. Alors là, on va parler d'un autre chouchou de Jean-Michel du côté de Penn State, joueur tackle gauche hein, du côté des Nittany Lions, qui a montré de très très bonnes choses durant son cursus universitaire. Là, je vais le dire tout de suite, c'est mon avis personnel. Je sais par exemple que Jean-Michel l'avait un petit peu plus haut, sans vouloir trahir de secrets. La problématique principale avec Rashid Walker, c'est notamment ses soucis de blessure la saison dernière. C'est peut-être un investissement encore un peu trop risqué à l'heure actuelle. C'est peut-être aussi un joueur à qui manque un attribut, là encore, hein, pour insister sur cette donnée-là, qui peut faire la différence par rapport à d'autres. C'est clairement pas le plus physique, le plus athlétique, le plus technique. Techniquement, tout n'est pas parfait d'ailleurs. Donc, pour jouer tackle gauche à l'échelon supérieur, ça reste encore un petit point d'interrogation à mon sens. Mais très clairement, ça peut rester un projet et un joueur à développer dans un premier temps, histoire d'être sûr, en l'occurrence, que ses pépins physiques sont derrière lui. Ensuite, aux alentours du 4e, 5e tour, on a quelques profils intéressants. Spencer Burford, notamment de UTSA, Obina Eze de TCU, Zach Tom de Wake Forest et Braxton Jones de Southern Utah. Donc, 4e, 5e tour, là, on parle vraiment de projets de joueurs très clairement à peaufiner. On prend l'exemple d'un Zach Tom hein, qui a joué un petit peu partout sur la ligne offensive des Demon Deacons, mais dont on voit qu'il a quand même une capacité notamment athlétique, hein, une capacité à pouvoir décrocher notamment. Donc ça peut être intéressant dans la NFL moderne, mais voilà, ça peut être des profils à surveiller de très très près. Braxton Jones également, qui doit se perfectionner d'un point de vue technique, mais qui a en tout cas un sacré gabarit à mettre en avant. Et qui fait partie en tout cas de ces tackles de deuxième division universitaire qui peuvent éventuellement s'imposer comme des tackles un peu surprises dans cette QV de draft. On termine du coup dans ce top 20 au niveau des tackles. On va aller assez rapidement avec notamment Luke Gedicki. Alors là aussi, on peut ne pas être d'accord, position 4e, 5e tour. Luke Giedecke de Central Michigan, qui interroge notamment sur sa capacité, sur sa mobilité, hein, donc savoir si ça peut être un guard ou un tackle globalement. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu la question qui se pose, mais c'est un joueur qui manque d'explosivité. Et puis après, on a des profils comme notamment Matt Valetsko de North Dakota ou Cordell Volson de North Dakota State, qui sont des profils un petit peu, des hommes un petit peu à tout faire, qui peuvent dépanner sur pas mal de postes, tackle, guard, etc. Mais à qui il manque peut-être ce critère qui va faire que sur un poste prédéfini, ils pourront être utilisés assez rapidement à l'échelon supérieur. Donc voilà, là, on est vraiment sur du développement avant tout au niveau de cette fin de top 20. On passe au receveur, je pense que ça en intéressera un petit peu plus. Il a fallu faire des choix. Le proverbe dit choisir, c'est renoncer. Et très clairement, il a fallu renoncer dans cette classe du top 20 à quelques joueurs un peu chouchous, hein, en tout cas qui vont être à suivre de très très près. Vous allez le voir au niveau des projections, ça reste projeté assez haut du côté de ce top 20 des receveurs. Joanie Tinido qui nous dit pourquoi les gens détestent autant les gars de Penn State. Les bras m'en tombent, je ne comprends pas qui déteste les joueurs de Penn State, pour le coup. Ah oui, c'était peut-être un rapport au commentaire de Johan juste avant, je n'avais pas vu. Mais très clairement, voilà, il y a quand même des profils intéressants. Je le répète, Jaquan Brisker notamment, qui devrait être le principal, Arnold Ibiketie notamment sur le pass rush. Il y aura quand même des joueurs à suivre, mais c'est vrai que Rashid Walker, malheureusement, offensivement parlant du côté de Penn State, hormis peut-être un receveur dont on va parler dans quelques secondes, c'est vrai qu'il n'y a pas que des domaines qui ont été très, très rassurants en 2021. On commence avec le top 5, Camille, dans cette classe de receveurs très intrigante. On va commencer du coup par le top 5 qui paraît indéniablement promis à un premier tour pour des raisons assez différentes. Garrett Wilson, la valeur d'espace du côté d'Ohio State, dont on peut remettre en question son aptitude au duel et son gabarit, en tout cas son amplitude physique, on dira, pour aller chercher les ballons. Maintenant, on voit qu'en yards après réception, c'est un joueur qui régale. Chris Olave, son coéquipier d'Ohio State, qui a démontré une belle capacité, notamment de receveur de possession, une excellente rapidité également lors du combine. Donc, on se rend compte que c'est un joueur peut-être un peu plus complet encore que ce à quoi on pouvait s'attendre. Jamison Williams d'Alabama, c'est le vrai point d'interrogation dans le sens où on a affaire à peut-être la principale menace verticale de cette draft, une vraie bombe atomique, mais un joueur qui présente l'inconvénient de s'être blessé très tardivement en 2021, avec notamment une déchirure des ligaments croisés et une saison 2021 qui est 2022 pardon, qui sera du coup potentiellement remise en cause. Et puis on a les deux colosses, on va dire, sur cette position de receveur. C'est pas les seuls en l'occurrence, mais voilà, les deux grands receveurs très intrigantes de ce premier tour, que sont Drake London de USC, très bon en tracé et quasiment injouable en termes de duel en homme à homme et de duel, enfin d'aptitude à casser les plaquages. Et puis Traylon Burks également d'Arkansas, qui lui aussi est un receveur assez grand, mais encore plus agile pour le coup, et qui a démontré une capacité à être un vrai couteau suisse et à pouvoir éventuellement accumuler des yards après réception, notamment en sortant du backfield offensif. Donc voilà, vraiment cinq joueurs qui vont être à surveiller très très près au cours de ce premier tour, parce que même si on a une classe assez dense, c'est des profils qui peuvent faire rêver et qui peuvent être promis à un statut de receveur numéro 1 relativement rapidement en NFL. On enchaîne sur les positions 6 à 10, parce que là encore, il y a des joueurs qui peuvent intéresser. Christian Watson de North Dakota State. Alors, je sais qu'on avait une question sur Christian Wilson, notamment posée par Jean-Michel, puisque c'est vrai qu'on dit beaucoup que Christian Watson est un profil extrêmement intriguant qui peut prétendre à un statut de premier tour, d'où sa projection en premier et deuxième tour. Je continue d'être persuadé qu'une équipe peut tenter sa chance sur une sélection au premier tour. Concernant Christian Watson, qui a quand même un profil extrêmement hybride. Alors c'est vrai que je l'ai vu un petit peu résumé à un statut de joueur qui court vite. Ses mains ne sont pas parfaites. C'est clairement ce qui joue contre lui, en tout cas moins bonne que d'autres receveurs, entendons-nous bien. Maintenant, je n'ai pas dans l'idée qu'il ait été suffisamment utilisé dans ce genre de domaine, dans l'attaque de North Dakota State. Et je pense qu'il y a peut-être mieux à en tirer. C'est un joueur qui, dans un système adapté, très clairement, appelons un chat, je pense que s'il termine par exemple à Kansas City avec Patrick Mahomes, ça peut être un joueur extrêmement dangereux. Donc après, on pourra dire c'est un joueur qui court vite, c'est un joueur qui n'a pas un QI football aussi développé que d'autres receveurs de cette classe. Mais en tout cas, c'est un joueur qui présente une marge de progression telle de par la taille qui est la sienne, de par sa capacité à être une vraie menace après réception. Ça peut vraiment être un playmaker absolu en NFL. Et ça me paraît difficile de ne pas l'envisager comme un potentiel candidat au premier tour. Jahan Dotson également de Penn State, donc premier et deuxième tour. Là aussi, ce n'est pas du tout le même profil. En l'occurrence, Jahan Dotson, c'est profil beaucoup plus petit. Je crois qu'il est à 5'11", donc on doit être aux alentours du 1m80, si je ne me trompe pas. Encore une fois, j'ai toujours un petit peu de mal avec les conversions. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est clairement pas le receveur le plus grand de cette classe. Maintenant, il joue sur d'autres armes, sur les tracés, notamment sur les excellentes mains, sur un sens du timing, tout simplement. On a presque à faire un clinique sur le poste de receveur quand on voit jouer Jahan Dotson. Donc, voilà, même si c'est pas flamboyant, c'est un peu le sous-cri se laver, entre guillemets, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est des joueurs qui paraissent pas très glamour sur le papier, mais qui savent faire un nombre de choses absolument délirantes et qui sont extrêmement complets pour aller chercher des premières tentatives quand le besoin s'en fait ressentir. Sky Moore également de Western Michigan, ça c'est éternellement, le nom qui continue de grimper, receveur relativement petit mais vraiment dur au mal, joueur qui est pas gêné pour pouvoir jouer physique, notamment dans le slot. Donc, qui présente une marge de progression extrêmement intéressante, hein, même si du côté de Western Michigan, c'est pas forcément de l'attaque aérienne à tout va, et ils ont pas forcément rencontré des grosses défenses contre la passe. Mais en tout cas, le potentiel est clairement là pour Sky Moore. David Bell, ça rentre dans cette catégorie des receveurs de possession à qui il manque peut-être des attributs, notamment d'un point de vue tracé, d'un point de vue vitesse. Également, on sait que c'est des éléments qui sont souvent très rédhibitoires dans l'optique de la draft sur la position de receveur. Maintenant, il y a quand même un échantillon qui est assez intéressant. Je ne dirais pas que c'est un Alshon Jeffrey en plus petit, mais en tout cas, il y a ce côté-là où on voit que c'est vraiment un joueur qui, sans être spectaculaire, peut être assez précieux et aller chercher des premières tentatives dans tout type de situation. Donc, voilà, David Bell de Purdue, tout comme Sky Moore, ça peut être un solide deuxième tour dans le titre de cette draft à venir. George Pickens de Georgia, deuxième, troisième tour. Je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le présenter. Peut-être le joueur facétieux, le joueur le plus facétieux de cette classe, ne serait-ce qu'au niveau du poste de receveur, sûr de sa force. Joueur qui a eu une saison 2021 perturbée, notamment par les blessures en tout genre, mais dont on a vu que même quasiment sur une jambe, il était capable de faire des catchs de folie. Donc, voilà, c'est un joueur qui, quand on joue contre lui, peut être rapidement énervant, mais dont on se dit que s'il se remet pleinement de sa blessure, ça peut être un des tout principaux playmakers de la Ligue dans les années à venir. On peut enchaîner sur les positions 11 à 15, Camille, avec un autre joueur concerné par les blessures, c'est John Mechie d'Alabama, joueur qui s'est blessé un petit peu plus tôt que Jameson Williams, donc, pour qui la saison n'est pas forcément d'ores et déjà compromise, profil assez complet malgré tout du côté de John Mechie. Alors c'est vrai qu'on peut-être lui reprocher son gabarit physique, on va dire, face à des corners un peu amenés à jouer plus en presse ou sur ses tracés. Moi je trouve qu'il est quand même extrêmement extrêmement complet. On l'a vu notamment, j'ai encore en tête son duel contre Roger McCreary face à Auburn. Quand il faut jouer physique, il est capable d'avoir du répondant. Alors, c'est sûr que Roger McCreary n'est pas le cornerback le plus dissuasif qu'il ait eu à croiser qui va être amené à croiser en NFL. Il y aura des profils un peu plus enquiquinants, on dira, quand il faudra catcher le ballon. Mais je trouve que John Mechie a quand même une base assez intéressante pour le receveur canadien, et en espérant pour lui qu'il revienne à 100%, ça peut en tout cas être un bon receveur 2 voire 3 dans un premier temps pour vraiment afficher des stats intéressantes et surtout être pression en zone rouge, puisqu'on a vu qu'il était capable d'être dangereux dans cet effectif, dans cet exercice, tout simplement. On termine avec les projections deuxième, troisième tour avec Calvin Austin the Third de Memphis. Alors on nous dit Calvin Austin peut-être du côté des Chiefs, hein, je vois que Nolive 9 nous évoque cette possibilité là, pourquoi pas. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même profil que Tyreek Hill, parce que l'inconvénient de Calvin Austin, même si il démontre une bonne capacité de tracer, il a quand même un physique qui risque de jouer contre lui et qui risque peut-être de le cantonner à un rôle dans le slot. Il n'y a rien de déterminé, encore une fois, et on voit qu'il y a des receveurs avec des petits gabarits qui joue de plus en plus sur l'extérieur. Mais c'est vrai que Calvin Austin, ça va peut-être pas se faire tout de suite et ça va peut-être être un projet en tout cas à polir dans un premier temps pour espérer le voir un peu plus performant, notamment d'un point de vue extérieur. Mais en tout cas, il y a vraiment une vivacité, une capacité de tracer, comme je le disais, des mains globalement fiables pour Austin, pour là encore réussir à se développer efficacement. C'est un joueur qui joue receveur du côté de Memphis que depuis 2 ans et qui sort de saison absolument dingue du côté des Tigers. Donc voilà, même si au départ, ça reste un sprinter avant tout, on voit que sa vision du jeu est quand même assez intéressante d'un point de vue football. Jalen Tolbert de South Alabama également, grosse menace verticale qui doit peut-être se développer un petit peu en termes de tracé et de capacité physique, mais là encore on a affaire à une petite bombe, un joueur très explosif et encore une fois capable de sévir sur du jeu profond, donc ce sera un joueur à surveiller de très très près. Khalil Shakir également projeté au 3e tour et Romeo Doubs 3e-4e tour, c'est deux options intéressantes, deux joueurs qui peuvent être performants balle en main. Romeo Doubs un peu plus physique que Khalil Shakir qui est vraiment plus axé sur de la vitesse. Ça manque peut-être un petit peu de régularité d'un point de vue réception en termes de mains notamment. C'est pas forcément les deux profils les plus rassurants, mais c'est des joueurs en tout cas qui présentent une capacité à pouvoir se développer assez rapidement sur le poste de receveur. Dax nous demande si Romeo Doubs ou Ravens ça peut être une solution pour remplacer Boykin. Ça peut en tout cas être un joueur intéressant à développer. Encore une fois, il y a une certaine taille de la part de Romeo Doubs. Ça a été vraiment le joueur dont on savait qu'il était le receveur principal du côté de Nevada, aux côtés de Carson Strong, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et pourtant, il a réussi à pleinement performer durant ses saisons du côté de Nevada. Donc pour le coup, Romeo Doubs, il y a des arguments à mettre en avant. Mais il va falloir quand même que d'un point de vue récession, il soit beaucoup plus régulier, qu'il soit peut-être pas qu'une menace, on dira, verticale au niveau des rangs universitaires. On va terminer du coup avec les positions 16 à 20, avec du coup Wendell Robinson de Kentucky, Alec Pierce de Cincinnati, 3e-4e tour, et puis ensuite on a Justin Ross de Clemson, Taekwon Thornton de Baylor et Danny Gray d'SMU, donc 4e et 5e tour. Wendell Robinson, là aussi, on va rester sur des considérations un petit peu de gabarit. Il y a peut-être aussi une intelligence de jeu. On dira que c'est un joueur qui sait avaler les espaces et en plus qui a été pleinement performant en universitaire dans un système offensif du côté de Kentucky qui était énormément calqué sur du pro style. Donc, des systèmes qui peut être amené à retrouver en NFL. Donc, il y a quelque chose qui peut être intéressant à calquer. Maintenant, c'est peut-être un joueur encore un peu trop fougueux, peut-être un peu trop orgueilleux aussi dans sa manière de jouer et qui va réussir à falloir canaliser pour vraiment en exploiter le plein potentiel en NFL. Alec Pierce, grosse menace verticale également du côté de Cincinnati, joueur athlétique mais aussi assez grand. Ça a été le meilleur copain de Desmond Ridder du côté des Bearcats pour les belles saisons notamment de Cincinnati ces dernières années. Donc, il y a du potentiel. Maintenant, est-ce que ça peut être régulier, c'est pas forcément dit. Jean-Michel nous dit Pierce au 2e tour, je ne serais pas choqué. Moi non plus, hein. Entendons-nous bien, et c'est précisé d'ailleurs par Nitinito. En zone rouge, ça peut en tout cas être le meilleur ami du quarterback. Voilà, c'est plus en termes d'utilisation globale où il faut savoir si l'investissement peut valoir le coup. Mais voilà, encore une fois, on parle d'un 3e-4e tour, c'est pas non plus des joueurs qu'on va récupérer aux portes de la free agency. Hein. Donc voilà, ça restera quand même des joueurs, on a quand même affaire à une classe assez dense. Ce qui pourrait jouer en défaveur d'Alec Pierce, mais bien entendu que le projet est assez intéressant en soi. Pour terminer très rapidement, un mot sur Justin Ross, dont on ne découvre pas le plein potentiel, mais joueur qui pose forcément des interrogations d'un point de vue santé, joueur opéré notamment au dos, dont on pensait que la carrière était menacée. Je me demande d'ailleurs si l'opération qu'il a subie et pas celle dont on parlait hier n'est pas la même que celle à venir pour Damon Clark, le linebacker d'LSU. Et voilà, on a vu qu'il revenait. Il a une capacité, en tout cas une envergure qui lui permet de catcher pas mal de ballons, une certaine vivacité hein, qu'il n'a pas forcément perdu. Ça peut être un joueur extrêmement précieux, notamment sur des screens ou ce genre de choses. Mais voilà, est-ce qu'il a encore le coffre désormais pour pouvoir être pleinement performant aujourd'hui? Est-ce qu'une équipe, en tout cas, a envie de tenter un pari aussi haut sur lui, rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. Et voilà, ce sera en tout cas surveillé au cours du processus draft. Il y a d'autres joueurs hein, dont on aurait pu parler. Enfin, il y a Dejan Dixon, par exemple, de Nicole State, que j'aime beaucoup, joueur assez grand et doté de mains extrêmement intéressantes, mais qui reste encore peut-être un peu brut. Et voilà, là encore, on est sur du profil. Il peut y avoir 30-40 receveurs draftés, à mon sens, au cours de cette QV 2022. On termine, Camille, avec les quarterbacks. Certains diraient le meilleur pour la fin. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec cette expression-là, parce que très clairement, on n'est pas sur une classe qui fait rêver, mais ça restera forcément la position la plus suivie, ne serait-ce que pour savoir quelles franchises sont les plus intéressées pour miser sur eux au cours de cette QV. On va commencer par le top 5. Il ne va pas y avoir de joueurs énormément draftables, on va dire, dans cette classe. Donc, on va voir le principal tiers groupé d'entrée. Le top 5, Camille, si tu me permets, avec du coup les Malik Willis de Liberty et Kenny Pickett de Pittsburgh. Annoncé au premier tour, ça fait globalement l'unanimité. Malik Willis a l'air d'avoir marqué beaucoup de points, notamment par le biais de son processus draft. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments où on se dit que, notamment d'un point de vue lecture, improvisation, c'est un joueur qui fait encore peur malgré tout. Hein. Tout n'est clairement pas rassurant dans l'aspect, on dira, intellectuel du jeu. Maintenant, il y a une mobilité qui est là. On voit que c'est un profil qui malgré tout n'est pas sans rappeler Trey Lance l'année dernière de North Dakota State. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on a vu que Trey Lance a été un titulaire dès sa saison rookie. Mais on voit en tout cas qu'il y a des éléments dans la NFL moderne qui peuvent amener à intriguer les scouts. Mais très clairement, Malik Willis, ce ne serait pas du tout une sensation s'il venait à être drafté avant Kenny Pickett. Je pense que ce sera surtout un point de vue marge de progression, vraiment plafond, parce que je pense que aux yeux de beaucoup d'équipes, l'écart entre Willis et Pickett n'est pas non plus monstrueux. Mais on espère peut-être en voir beaucoup plus à terme de Willis que ce qu'on peut en avoir aujourd'hui avec Pickett. Pickett, l'avantage très clairement qu'il a, c'est qu'encore une fois, on a vu qu'il a réussi à progresser du côté de Pittsburgh. Il a démontré une bonne précision, un bon sens de l'anticipation également quand il fallait alerter ses cibles. Il a beaucoup contribué à la belle saison des Panthers en 2021 avec notamment une qualification à un bowl majeur, notamment en fin de saison pour Pittsburgh. Et puis, c'est tout simplement le quarterback qui a performé cette année dans un système pro-style, comme je disais tout à l'heure, donc un système qui peut être amené à revoir en NFL, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres quarterbacks qui ont peut-être plus joué sur de l'option avec une deuxième lecture avant tout. Kenny Pickett, voilà, il a évolué dans un système qui peut être amené à reproduire par la suite. Et même si on n'est pas sûr aujourd'hui qu'il sera plus qu'un game manager, c'est peut-être un des quarterbacks qui rassure le plus dans cette optique. On enchaîne avec Desmond Ridder de Cincinnati, Matt Corral d'Ole Miss et Samuel de North Carolina, des profils assez différents. Alors Desmond Ridder de Cincinnati, je sais que c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup son profil. C'est pas forcément mon cas. Après, je le dis très clairement, Desmond Ridder, ça, en termes de profil de game manager, je pense que il va être. C'est un joueur dont on voit qu'il est assez intelligent, moins foufou par exemple que Malik Willis, dont je parlais il y a quelques secondes. C'est un joueur qui est capable de prolonger les jeux au sol. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, une capacité également à être extrêmement dangereux dans le jeu vertical quand il fallait notamment alerter Alec Pierce. Maintenant, voilà, il manque peut-être ce petit grain de folie, cette précision tout simplement de la part de Desmond Ridder, dont on a vu parfois, alors c'était pas forcément toujours le cas hein, du côté de Cincinnati, mais sur les matchs les plus compliqués de Cincinnati, il y a toujours eu des moments un petit peu de creux et on sentait que Desmond Ridder sortait un petit peu les rames à ce moment-là. Donc après, voilà, ça veut rien dire. On sortira toujours l'argument du c'est un des quarterbacks qui a remporté le plus de victoires en college football, ce que j'entends à 100%, les deux hommes devant lui, c'est Kellen Moore et Colt McCoy. Donc, c'est aussi à relativiser un petit peu là-dessus. Mais voilà, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de dire si j'aime ou si j'aime pas, mais ce sera clairement un joueur qui peut intriguer et qui peut amener une équipe à le sélectionner au premier tour, parce que là aussi, je pense qu'il y a une marge de progression qui est pas inintéressante. Mais voilà, il y a encore des éléments, on dira purement dans le domaine purement technique du quarterback qui seront clairement à perfectionner. Matt Corral également du côté d'Ole Miss, là aussi c'est peut-être le système de jeu de Mississippi qui va jouer en sa défaveur. Joueur capable d'être très rapide au niveau de la distribution, de bien trouver les zones intermédiaires. Il y a sans doute besoin malgré tout de gagner vraiment en confiance, notamment dans la poche, très clairement, et de réussir à imprimer un vrai rythme durablement à cette attaque, tout simplement à prendre confiance petit à petit dans ce qu'il peut apporter à sa future équipe, parce que voilà, il retrouvera sans doute pas les mêmes conditions de jeu que celles qu'il a connues du côté d'Ole Miss, même si très clairement sur le papier c'est un pari extrêmement intéressant. En tout cas, c'est un des joueurs qui a peut-être été un des plus spectaculaires, ou en tout cas un des plus intéressants, des plus séduisants à suivre dans le domaine aérien par rapport dans toute la caste de joueurs dont on a parlé tout à l'heure. Parcours très, très tumultueux, on dira, du côté d'Ole Miss. Hein, les nombreux coaching staff, enfin les quelques coaching staff qui ont changé du côté de Mississippi n'ont pas forcément aidé en ce sens. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose à exploiter de la part de Matt Corral. Maintenant, à quelle position ce sera à voir en fonction des équipes intéressées. Et puis Samuel également de North Carolina, qui a montré des profils assez différents, joueur capable de jouer vertical, d'être très explosif, de s'adapter l'année dernière quand il manquait un petit peu de solutions, avec beaucoup de joueurs qui ont quitté le programme de North Carolina, capable également d'apporter des solutions au niveau du jeu au sol. Un style de jeu qui n'est pas sans rappeler celui de Baker Mayfield, avec peut-être la touche caractérielle en moins, et c'est ce qui peut faire la différence aux yeux de certaines équipes. Donc voilà, potentiellement un premier tour si une équipe en tombe amoureux, un début deuxième plus vraisemblablement, puisque voilà, sur le top 5, c'est pas forcément celui qui tient la corde, loin de là. Donc voilà, joueur Risen 81 qui nous dit: la faculté qu'a eu Owell de passer de pocket passeur à QB double menace m'intrigue. Après, attention, ça a été un joueur qui a un peu plus couru, ça ne veut pas dire qu'il protégeait le ballon efficacement. Hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Ce n'est pas parce qu'il a réussi à adapter un petit peu son style de jeu qu'il l'a forcément fait très bien. Et du coup, ça, c'est aussi des choses qui peuvent effrayer si on veut utiliser un premier tour de draft sur le quarterback des Tar Heels. On enchaîne, Camille, avec les positions 6 à 10, avec notamment Carson Strong, dont on va parler tout de suite, attendu plus vraisemblablement aux alentours du deuxième, troisième tour, pocket passeur assez classique. Lui, pour le coup, il paye un petit peu par rapport au top 5, son certain manque de mobilité, peut-être également une gestion de la poche qui n'est pas toujours parfaite, peut-être une tendance un petit peu à paniquer sous la pression. La petite bêtise aussi, peut-être, entre guillemets, hein, de sa part, ça a peut-être été de revenir un petit peu prématurément d'une blessure subie en amont de la saison 2021. Donc c'est vrai que ça l'a peut-être aussi conditionné dans cet état de fait à donner cette impression justement de pas forcément être complètement rassuré et rassurant dans sa gestion de la poche. Mais en tout cas, ça reste vraiment un profil, on dira, à développer. Sans doute pas un quarterback numéro un d'entrée, mais en tout cas, un joueur qui, pourquoi pas, peut taper à la porte et être testé si un quarterback numéro 1 ne donne pas pleinement satisfaction. Ça dépendra, mais dans une attaque, par exemple, aérienne, Carson Strong, ce ne sera pas quelque chose de déconnant en soi. Vient l'interrogation Bailey Zappi. Alors, je sais que c'est un nom qui fait énormément fantasmer, Bailey Zappi. Alors, Bailey Zappi, c'est assez particulier dans le sens où, en effet, c'est des chiffres qui donnent le tournis. C'est un joueur qui a une capacité à prendre des risques et à être un vrai mitrailleur quand le besoin s'en fait sentir. En effet, il a battu énormément de records NCAA. Maintenant, attention quand même. Faudrait quand même essayer de voir si c'est transposable en NFL, ce qu'a proposé Bailey Zappi du côté de Western Kentucky. Alors, je le dis tout de suite, ça aussi, on me le reprochera peut-être. Il est listé troisième tour parce que j'ai fait un petit consensus. Je sais que Jean-Michel et a priori Victor sont beaucoup plus chauds sur Bailey Zappi que moi, je ne le suis. Donc j'assume totalement le fait que sa note ait potentiellement été, on va dire, moins bien valorisée par mes soins. C'est un joueur dont on parle, dont on évalue le fait qu'il est un vrai danger sur le jeu vertical, alors que je ne trouve pas son bras non plus démentiel. Et puis il faut voir s'il est capable de faire autre chose aussi. Je pense que le but du jeu, c'est pas uniquement de lancer à tout va. Alors c'est sûr que quand on est Patrick Mahomes, quand on a cette capacité athlétique à pouvoir éventuellement se sortir de n'importe quelle situation pour ensuite pouvoir armer, ça peut être quelque chose d'extrêmement concluant par la suite. Bailey Zappi n'a clairement pas cette mobilité. On est un petit peu sur le même profil que Carson Strong, c'est-à-dire que ça reste malgré tout un passeur avant tout, et que même si à terme ça peut très bien être un profil par exemple à la Nick Foles, hein, qui avait à peu près le même style de jeu, hein, du côté d'Arizona, c'était vraiment un joueur qui lançait beaucoup de manière verticale, peut-être avec un bras un peu meilleur que celui de Bailey Zappi. Nick Foles, sauf erreur de ma part, c'était un quatrième tour. Donc, il faut voir ce qu'on peut réussir à en tirer. Je ne dis pas très clairement que Bailey Zappi n'a pas de précision. Encore une fois, il avait vraiment des receveurs attitrés qu'il arrivait à trouver systématiquement. Mais là encore, c'est le fruit d'un système offensif vraiment bien huilé, avec des fenêtres de tir bien identifiées. Et une opposition également dans la conférence de Western Kentucky, la conférence USA, qui n'est pas non plus totalement dingue. Donc voilà, c'est juste, le but du jeu, c'est pas de sortir l'extincteur et encore une fois de taper bêtement et méchamment sur des prospects. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de joueurs s'enthousiasmer sur Bailey Zappi. Ça peut être un pari assez intéressant, là encore, sur un troisième, voire un quatrième tour. Pourquoi pas? Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Mais voilà, c'est pas sans risque, loin de là. Très clairement, c'est à l'image de ce classement, c'est-à-dire qu'il y en a 5 devant, il y a un projet intéressant derrière. Et après, derrière, il y a encore un phénomène, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, un profil extrêmement atypique qu'on ne pourra pas forcément mettre dans toutes les équipes, entre toutes les meilleures mains. Voilà. Donc là, forcément, on me taquine sur le chat en me disant que Bailey Zappi va finir aux Falcons. Peut-être, peut-être. Écoute, je ne changerai pas mon fusil d'épaule pour autant, sachez-le. Mais voilà, du côté de Bailey Zappi, en tout cas, il y a des choses intéressantes d'un point de vue passe. Là, encore une fois, les 5 premiers avaient des attributs en termes de mobilité non négligeables. Là, on est plus sur des profils de pocket passeur purs et durs qui sont pas forcément inintéressantes pour les franchises qui vont sélectionner au cours de cette draft. Ensuite, on va aller relativement rapidement. Vous voyez qu'il y a quand même un certain gap, hein. Je pense qu'il y aura, comme souvent, entre 10 et 13 quarterbacks sélectionnés lors de la draft, hein. C'est souvent une petite moyenne, histoire de au moins s'assurer un quarterback backup. Mais voilà, on va enchaîner d'ailleurs avec le reste. Mais que ce soit Cole Kelly, qui a plus un profil pocket passer, là encore, l'ancien joueur d'Arkansas qui a évolué récemment à Southeastern Louisiana en deuxième division universitaire, ou Caleb Ellaby, par exemple, qui est plus un profil mobile, ou en tout cas qui a joué sur du jeu assez court, mais dont on n'a pas vu forcément une énorme variété, qui a beaucoup joué sur ses receveurs, notamment Dwayne Eskridge et Sky Moore, dont on parlait tout à l'heure, pour vraiment accumuler des yards à la passe. Jack Cohn également de Notre-Dame, qui est plus un profil de game manager, qui a un historique de santé qui n'est pas forcément à son avantage non plus, sur lequel on a quand même des doutes sur la capacité à être un quarterback décent, un quarterback titulaire décent en NFL. Et puis derrière, on a quelques paris potentiels, hein, lors de la draft. Donc Chase Garbers de California, profil de jeu très risqué également, plus de déchets en l'occurrence que Bailey Zappi, mais une opposition aussi un peu plus notable au niveau de la conférence Pac-12. Et puis après, voilà, il y a des profils un peu différents, Dustin Crum plus à la passe, Skylar Thompson un peu plus mobile, E.J. Perry également, qui a été une belle surprise, notamment lors des bowls du processus draft, le quarterback mobile de Brown, et puis également Brock Purdy d'Iowa State. Alors je voyais Jugactu qui disait sur le chat c'est la chute aux enfers pour Brock Purdy. Malheureusement, il y a, en termes de prise de décision et de panique, on a trop souvent vu Brock Purdy perdre un petit peu les pédales. C'est vrai qu'il y a longtemps eu une petite blague en universitaire, on ne le voyait bon qu'au mois de novembre. Alors manifestement, je ne sais pas s'il se passe des choses. On peut le faire jouer au poste de quarterback que pendant un seul mois de l'année. Mais plus sérieusement, voilà, c'est vrai qu'il y a encore des éléments qui inquiètent d'un point de vue mental du côté de Brock Purdy. Et c'est rarement bon signe quand on est amené à évoluer en NFL. On termine avec ce top 20 avec quasiment que des joueurs undrafted. Christel Adokun de South Dakota State, donc en provenance de la deuxième division universitaire, qui a quand même une petite cote. On a vu qu'il a été interviewé par quelques équipes au cours de ce processus draft. Donc pourquoi pas être sélectionné par l'une d'elles au 7e tour. Et puis après, on reste sur des profils assez atypiques, plutôt mobiles. En l'occurrence, c'est le cas d'Hakim Glass d'Alabama A&M, donc autre joueur de deuxième division universitaire. D'Eri King de Miami, dont on pressentait la possibilité de passer receveur pendant un temps, qui a joué d'ailleurs receveur, je crois, pendant une très courte période du côté de Houston, qui sort surtout de pas mal de problèmes de blessures du côté de Miami. Donc ça pose un petit peu problème, ça interroge en tout cas sur sa vraie capacité à jouer quarterback ou en tout cas à jouer à un haut niveau régulier en NFL. Et puis on a également Levi Lewis du côté de Louisiana, qui était plus un quarterback athlétique et mobile que vraiment un pocket passeur classique. Brandon Peters d'Illinois, voilà, c'est plus pour faire le nombre, joueur dont on voit que d'un point de vue mécanique, il n'y a pas des choses inintéressantes, mais là encore, d'un point de vue mental, c'est peut-être là où ça pêche, et ça ne lui a pas forcément permis de trouver des points de chute très réguliers en tant que titulaire au cours de sa carrière. Lui qui a été par exemple une recrue de Michigan, si je ne dis pas de bêtises, au début de sa carrière au lycée, j'allais dire à l'université en l'occurrence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce top 20 des quarterbacks. On a fait le tour donc sur les 6 positions offensives. Je vais essayer de retrouver très rapidement les quelques questions que vous m'avez posées sur Twitter notamment, et je vous en remercie. Vous avez été très très réactifs alors que j'ai lancé ça assez tardivement. Aujourd'hui, alors je vais essayer de ne pas reprendre forcément des questions qui ont été plus ou moins abordées, mais je sais que Baptiste par exemple nous interrogeait sur le fait que on avait une troisième année consécutive avec une grosse classe de receveurs. Est-ce que c'était une tendance ou un concours de circonstances? Je pense malgré tout que c'est pas uniquement le fruit du hasard, puisqu'on voit aussi à contrario que même les running backs par exemple sont amenés à être de plus en plus performants en sortie de backfield. On voit qu'il y a aussi de plus en plus de coachs de college football qui sont amenés à aller en NFL. Donc, on voit que malgré tout, c'est assez transposable. On a un jeu universitaire qui est beaucoup plus axé sur du jeu aérien. L'un des meilleurs exemples, si pour ceux qui suivent le college football, c'est Alabama, qui a été une terre légendaire de jeu au sol et de coureurs extrêmement réputés, qui continue de l'être, bien entendu, mais dont on voit qu'ils sortent de plus en plus de receveurs absolument dingues saison après saison, avec notamment un cahier de jeu très très vertical et très très écarté. Donc voilà, toutes ces philosophies qui évoluent, cette mouvance hein, des nouveaux coordinateurs offensifs, des disciples de Shanahan, McVay, etc. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais le coordinateur offensif de Kentucky l'année dernière, c'est un disciple de McVay, hein, c'est Liam Cohen, qui est revenu d'ailleurs en tant que coordinateur offensif des Rams pour remplacer Kevin O'Connell, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a une mentalité qui évolue et c'est absolument tout sauf un hasard, je pense, si les classes de receveurs sont de plus en plus délirantes, ou en tout cas d'une homogénéité rarement vue à ce niveau. Baptiste qui nous demandait également quels receveurs des deuxième et troisième tours ont le potentiel pour être des receveurs numéro un. Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Moi personnellement, j'aime beaucoup David Bell. Très clairement, c'est sûr qu'il y a des éléments qui ne font pas forcément rêver. Je le disais, la vitesse notamment, ça c'est des choses qui sont un petit peu rédhibitoires pour pas mal d'équipes, mais je pense qu'en lui laissant peut-être pas des saisons rookie, mais en lui laissant un petit peu de temps, ça peut en tout cas être un receveur extrêmement décent, un receveur de possession, un receveur numéro 1 extrêmement décent, parce que voilà, il y a une taille qui me paraît suffisante, il y a une vitesse qui sans être dingue est quand même présente. Et même s'il n'y a pas une capacité de séparation qui impressionne par rapport à d'autres, là aussi, je ne le vois pas constamment au duel. Ça me choque moins, par exemple, que Drake London, pour le coup, dont on vante les tracés absolument fous, en partie à raison. Voilà, David Bell, ça ne me paraît pas forcément déconnant d'un point de vue tracé par rapport à London. Donc très clairement, ça peut être une bonne surprise. Et puis, je le répète encore une fois, mais voilà, George Pickens de Georgia. Si la tête est à l'endroit, si le corps suit, bien entendu, ça peut être un phénomène dans quelques années. Je prends souvent les mêmes exemples, mais on reprend toujours les fameux receveurs un peu emblématiques et caractériels, mais ça peut être du Michael Thomas, ça peut être du Michael Thomas, ça peut être du Dez Bryant, ça peut être ce type de joueur sûr de sa force. Mais là encore, il faut savoir se remettre en question, il faut être sûr qu'il ne soit pas revenu trop tôt, parce que là encore, il a voulu contribuer au titre national de Georgia et il a été décisif sur certaines rencontres. Il a voulu se présenter très vite en NFL, alors qu'avec une année de plus en universitaire, il aurait peut-être eu les portes d'un top 10 l'année prochaine, qui sait. Donc voilà, il faut espérer pour lui que sa blessure soit remise, mais il y a un gros, gros, gros talent à exploiter, si bien entendu le coaching staff est suffisamment patient et capable de leur mettre d'aplomb. Je prenais l'exemple de Kansas City tout à l'heure avec Watson, je ne vais pas leur envoyer tous les receveurs, mais on a vu qu'Andy Reid, les joueurs un peu caractériels, ça ne lui posait pas forcément de problème. Donc pourquoi pas George Pickens chez les Chiefs, par exemple, ça peut être une autre possibilité. Je vais reprendre rapidement les autres questions. Il y en a quelques-unes que j'ai abordées tout à l'heure. Alors, j'enchaîne avec une question de Baptiste hein, qui a été extrêmement réactif sur Twitter, qui nous dit Malik Willis, tu y crois ou tu le vois où dans la classe de l'année prochaine? On en parle comme un projet de troisième tour. Enfin, en gros, où il se situe où il se situerait dans la draft de l'année prochaine? Est-ce qu'il serait vraiment dévalué? J'irais peut-être pas jusqu'à dire un projet du troisième tour. Encore une fois, je t'en avais déjà parlé. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent absolument s'enthousiasmer sur déjà les choix de la saison prochaine. Bryce Young a du talent, CJ Stroud a du talent. J'attendrai quand même de voir leur saison prochaine pour continuer de m'enthousiasmer énormément parce que voilà, c'est la draft a cet avantage de pouvoir un petit peu faire fantasmer, essayer de se projeter un petit peu sur ce qui peut advenir par la suite. Mais voilà, faut peut-être pas griller les étapes. Et pour l'instant, je ne sais pas. Mais Malik Willis, je l'ai toujours dit, c'est pas un joueur, c'est pas rassurant pour lui. Mais en tout cas, c'est rare. C'est un joueur dont je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à exploiter. Voilà, c'est un joueur qui peut être assez excitant. Alors peut-être qu'il me rappelle un peu Michael Vick, même numéro, même aptitude à courir, tout ça. En espérant qu'il soit plus sympa avec les chiens. Mais voilà, je ne serais pas dérangé, par exemple, que Malik Willis atterrisse à Atlanta. Donc voilà, c'est pas la priorité absolue, très, très clairement, du côté des Falcons, mais pourquoi pas. Et puis, dernière question, toujours de Baptiste, hein, que je remercie vraiment de sa réactivité, et qui nous demande en termes de projection 2023. Alors, il nous parle donc de Keishon Boutte d'LSU, de Jordan Addison de Pittsburgh. Je ne sais pas si Jordan Addison sera éligible dès l'année prochaine, je ne veux pas dire de bêtises. Sans doute. Je me rappelle plus si c'était un sophomore ou un junior la saison prochaine. En tout cas, Boutte et Smith & Jigba, donc d'Ohio State, est-ce que c'est au-dessus de London, Burks ou Olave? Je vais te dire tout de suite, franchement, moi, Keishon Boutte, j'adore. Problème de blessure en 2021, donc il faut voir comment il reviendra, la saison prochaine. Mais c'est un joueur que j'adore absolument. Et puis, on a vu que Jackson, Smith & Jigba, ça pouvait abattre un boulot absolument dingue. Plus performant en termes de yards, on le rappelle, que Olave ou Wilson du côté d'Ohio State en 2021. Des mains extrêmement sûres, des rencontres à 13, 15 réceptions. Donc voilà, on voit que c'est un joueur qui n'a pas de difficulté à avoir une charge de travail assez conséquente. Il faut voir comment le physique va suivre, mais ça peut largement être des profils top 10, top 15, donc potentiellement au-dessus, pardon. Voilà, vous me précisez, autant pour moi, j'avais un petit doute sur Addison. Addison, j'aime beaucoup, ce sera peut-être un poil en dessous, de Boutte et Smith & Jigba, rendre un point de vue athlétique et potentiel à l'échelon supérieur, si encore une fois on se projette. Vous avez compris que ce n'était pas forcément mon exercice préféré. Mais en l'occurrence, on va dire que les premiers seraient un peu au-dessus de ceux qui tiennent la corde cette année. Donc encore une fois, Boutte et Smith & Jigba seraient peut-être un petit peu au-dessus de ce tiers groupé-là. Addison, ce sera un petit peu sur les spots 20 à 30, on va dire, dans ces eaux-là, sans vouloir trop m'avancer non plus. Donc, alors, attends, Johan qui me dit qu'il a posé des questions sur Twitter. Alors, je suis désolé, peut-être que je ne les ai pas vues. Je vais retourner voir ça tout de suite, parce qu'il faut que ce live Twitch soit extrêmement complet. Hein, je vais essayer de voir ça, mais j'ai essayé de récupérer toutes les questions en amont pourtant. Alors, je vais essayer de retrouver ça tout de suite. Johan, n'hésite pas à la reposer sur le chat, hein, sinon, parce que Ça va m'éviter de faire perdre du temps et d'essayer de meubler à l'antenne. Mais il y avait la question. Ah oui, sur Petit Frère et Fall, allez, je crois. Puisque du coup, c'était deux questions en une. Je pensais y avoir répondu notamment par le biais de Trevor Penning. Nicolas Petit Frère ou Daniel Falalé, qui a la plus grande marge de progression. Je continue de penser que c'est Falalé. Hein. Parce que je l'ai dit, il y a un apprentissage quand même assez tardif du football américain. Et puis voilà, c'est un profil. Il est souvent comparé en l'occurrence à un autre joueur australien qui lui a été drafté beaucoup plus bas, mais c'est Jordan Mailata des Eagles, dont on a vu là aussi qu'avec un apprentissage très très tardif du football américain. Alors lui en plus c'était différent parce que il n'avait pas forcément joué dans un programme autant en vue que Minnesota, ce qui est le cas de Falalé. On se dit que c'est potentiellement de l'or qui dort, comme on dit. C'est vraiment un profil qui est bien utilisé, peut être un tackle gauche extrêmement dissuasif. Donc oui, ça peut être une très très bonne opération. Je serais très étonné qu'il descende au-delà du deuxième tour. J'ai des doutes sur le fait qu'une équipe se laisse un peu tenter sur un premier tour, parce qu'il n'y a peut-être pas un profil aussi athlétique que d'autres joueurs. On sait que les qualités athlétiques priment par rapport aux qualités physiques dans l'esprit des observateurs. Mais voilà, en tout cas, Daniel Faalalé, projection beaucoup plus intéressante que Nicolas Petitfrère, comme je disais tout à l'heure, où tout n'est pas à gâcher, mais ouais, je commence même à me demander si Petitfrère ne sera peut-être pas meilleur en garde à l'échelon supérieur, mais il y a quand même des choses intéressantes à en faire très très clairement. Bon, en tout cas, vous avez eu mon avis globalement sur ces deux jours. J'espère ne pas avoir été trop long et ennuyeux pendant les heures et demie sur lesquelles on aura pu développer sur ces rankings. Je vous rappelle que de toute façon, vous aurez les avis détaillés, puisque je laisserai un peu plus la vedette à Jean-Michel et à Victor au cours de ces prochains jours. Hein. C'est bien de raconter un petit peu ma vie, mais c'est bien aussi d'avoir des avis un petit peu différents, divergents sur certains joueurs, certains profils. Je vous rappelle donc que jeudi à 19h, on se retrouve pour aborder la dernière mock live vidéo. Donc ce sera à 19h, donc je le répète, avec Camille et la technique et avec Victor également qui me tiendra compagnie dans une mock à un tour et sans trade. Je précise qu'il y aura sûrement la veille ou le jour même de la draft à déterminer une mock à trois tours qui sera faite à l'écrit par mes soins a priori, peut-être uniquement par mes soins, ce sera déterminé. Mais voilà, il y aura aussi une mock écrite avec trois tours pour essayer de développer un petit peu les différents choix. Et puis, je vous le rappelle, dans la nuit du 28 au 29, on se retrouvera pour le premier tour de la draft en direct sur Twitch. Et puis, dans la nuit de vendredi à samedi également, les deuxième et troisième tours de cette draft 2022. Vous ne raterez absolument aucun choix, aucun des principaux choix, en tout cas le top 100 de la draft 2022. Vous ne pourrez pas passer à côté. Merci encore en tout cas d'avoir été en ma compagnie, d'avoir été assez nombreux. On était un tout petit peu moins qu'hier, mais encore une fois, c'est déjà très bien. On fait dans la qualité, pardon, avant tout. Donc merci encore à ceux qui étaient là ce soir et ceux qui étaient là également hier. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous et d'avoir vos retours, notamment par le biais du chat. Très bonne soirée à tous. On se retrouve donc jeudi sur le live Twitch. Merci encore Camille pour ta patience et ta gestion de la technique au cours de ces deux émissions. Et puis on se retrouve donc après-demain pour un nouveau live Twitch sur les antennes de TouchGen Actu. Très bonne soirée à tous et à très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.